un journal présenté par Jeanne Serrin. Bonjour Jeanne.
Bonjour Oumi, bonjour à toutes et à tous. Nous serons à nouveau une seule famille. La promesse de Volodymyr Zelensky au peuple ukrainien alors que le pays célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance. Reportage à Kiev dès le début de ce journal. Il tente de venir au secours de Benjamin Netanyahou et de se sauver lui-même. Le chef de l'opposition de centre-droit propose une coalition avec le premier ministre israélien. Décryptage à suivre. L'actualité en France et cette rentrée à haut risque qui se profile pour François Bayrou. Le premier ministre menacé de censure sur la prochaine séquence budgétaire livre sa feuille de route pour déminer le terrain. Enfin, la mise en examen d'un gérant de parc de loisirs dans les Pyrénées-Orientales accusé d'avoir refusé l'accès à un groupe de jeunes Israéliens. Pour la quatrième fois depuis le début de la guerre, l'Ukraine célèbre son indépendance sous les bombardements russes. En ce jour de fête nationale, des manifestations en soutien au peuple ukrainien sont organisées partout dans le pays et en Europe. Dans la capitale ukrainienne, un événement recueille aujourd'hui l'attention de nombreux visiteurs. Une exposition d'armement capturée dans le Donbass. C'est un reportage à Kiev de Bastien Bory.
Attiré par la foule, Pavlo, la cinquantaine, a laissé son vélo contre la tôle froissée d'un char russe. Qu'il balaye de sa main gantée comme pour effacer une époque à ses yeux révolus.
Vous voyez ça, ça appartient aux Russes. Vous savez, ceux qui sont venus pour nous libérer, mais on ne sait pas très bien de quoi.
Un peu plus loin, Olesia prend des photos de ses enfants qui rient et s'agitent autour d'un lance-missile récupéré sur le front. Un contraste tout sauf saisissant pour cette habitante de Kiev.
Pour moi, c'est un jour de fête à part entière. Oui, c'est un pays divisé, mais il est grand. Et même si ce qui se passe en ce moment est terrible pour nous, cela ne change rien au fait que nous vivons dans un pays indépendant et libre.
Nikolai s'est approché en souriant. Le visage de cet ancien mineur du Donbass raconte des années de labeur, mais la guerre ne l'a pas fait plier.
Nous ferons la fête plus tard. Aujourd'hui, ce n'est qu'une commémoration. La vraie fête aura lieu quand nous aurons vaincu cet animal et quand gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, sera entendue dans le monde entier.
Aujourd'hui, dans la capitale, joie et gravité se mêlent. La Russie, elle, a encore lancé 72 drones bombardiers et un missile balistique la nuit dernière.
Alors que les efforts diplomatiques semblaient s'être accélérés ces derniers jours, l'idée d'une réunion entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky semble de son côté s'éloigner de jour en jour. Le président ukrainien, qui s'est adressé à toute sa nation aujourd'hui, en ce jour anniversaire de l'indépendance, il a appelé à l'unité.
L'Ukraine ne sera plus jamais contrainte dans l'histoire à endurer la honte que les Russes appellent un compromis. Nous avons besoin d'une paix juste. Nous déciderons seuls de notre avenir. Le monde le sait, le monde le respecte et traite l'Ukraine d'égal à égal. L'Ukraine est capable en un seul jour de rassembler et de fédérer autour d'elle les dirigeants du monde entier. L'Ukraine qui a restauré l'unité de l'Europe et des États-Unis et qui sert désormais de fondement à cette alliance.
La France, qui se tiendra toujours aux côtés de l'Ukraine, déclare de son côté Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui salue la bravoure et le courage du peuple ukrainien dans ce combat pour la justice et la paix. Fin de citation. Sur le terrain, cette nuit, Kiev a mené une série d'attaques de drones sur la Russie, provoquant des incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier. En Israël, une main tendue par l'opposition à Benjamin Netanyahou, le chef du parti de centre-droit bleu-blanc Benny Gantz, propose au premier ministre israélien de former un gouvernement temporaire pour permettre la libération des otages. Une proposition de sortie de crise pour la coalition de Benjamin Netanyahou, très fragilisée depuis le départ des ultra-orthodoxes. Nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Michel Paul, bonjour.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
La proposition de Benny Gantz, Michel, n'a pour l'heure reçu aucune réponse.
Oui, c'est une proposition alléchante, mais sur le papier seulement. Benny Gantz, ancien ministre, ex-chef d'état-major, propose à Benjamin Netanyahou de mettre en place une coalition d'urgence nationale, un gouvernement centriste pour échapper à l'emprise de l'extrême droite qui s'oppose à toute trêve à Gaza. Gantz propose au premier ministre israélien le soutien de 72 députés sur les 120 que compte le Parlement, alors qu'après le départ des ultra-orthodoxes, le gouvernement israélien ne jouit plus de majorité à la Knesset. L'objectif est double, signer un accord pour la libération des otages et également trouver une solution à l'éternel problème de la conscription des Haredim, les ultra-orthodoxes, qui réclament l'exemption du service militaire. Mais, Jeanne, derrière cela se cache le fait que le parti de Gantz, le bleu-blanc, selon tous les sondages, ne passe plus le seuil électoral. À ce stade, c'est une proposition qui se heurte à un mur de silence de la coalition et également au ricanement de l'opposition. Un spectacle pitoyable, proclame Victor Lieberman, un des ténors de l'opposition. Pour lui, Benny Gantz est un homme fatigué, effrayé, paniqué, qui rampe vers Netanyahou pour sauver sa peau.
Michel Paul, correspondant de RFI pour France Culture. La fin des incendies se rapproche en Espagne. Les déclarations optimistes hier des autorités espagnoles après 2 semaines de feux de forêt qui ont ravagé des milliers d'hectares. Le pays qui a connu cet été sa plus intense vague de chaleur jamais enregistrée depuis le début des mesures, indique aujourd'hui l'agence météorologique espagnole. En Hongrie, Viktor Orban face à une nouvelle polémique. En cause cette fois-ci, les retards de train, toujours plus fréquents dans le pays depuis le gel des fonds européens il y a 3 ans pour non-respect de l'état de droit. Le gouvernement du Premier ministre hongrois manque d'argent et choisit d'investir ce qui lui reste dans les autoroutes au détriment de la maintenance du réseau ferroviaire. Résultat, des trains en panne, des tableaux d'affichage en gare toujours dans le rouge et une situation embarrassante pour le gouvernement qui a donc décidé de supprimer l'application de suivi des horaires de train. Mais la riposte des utilisateurs n'a pas tardé, Florence Labruyère.
Tibor est en terminale dans un lycée de Budapest. Tous les week-ends, il fait 2 heures de train pour rentrer chez lui en province.
Le train est toujours en retard, c'est un peu usant.
Avant, les usagers pouvaient facilement repérer les retards sur l'appli de la Société des chemins de fer. Une carte de la Hongrie s'affichait sur leur téléphone avec toutes les infos en temps réel. Des points verts pour les trains circulant à l'heure et des points jaunes ou oranges pour les trains en retard. C'était très utile selon cette voyageuse.
Cette appli était super, c'était très populaire, mais notre cher gouvernement l'a supprimée du jour au lendemain.
Supprimée sur ordre du ministre des Transports et remplacée par une autre où les retards sont moins visibles. Mais d'ingénieux étudiants en informatique ont développé de nouvelles applis qui affichent tous les retards. Le ministre les accuse de piratage, ce que réfute l'un des étudiants.
Ce que nous faisons est tout à fait légal. Tout le monde peut télécharger les données sur le site des chemins de fer. Certains disent que nous attaquons les systèmes de sécurité, mais ce n'est pas vrai.
L'une de ces applis citoyennes s'appelle Sur le quai. Sur sa page d'accueil, on peut lire « Nous ne sommes pas un site officiel » et c'est pour ça que ça marche.
La correspondance à Budapest de Florence Labruyère, c'est un accessoire qui s'est frayé un chemin jusqu'en dans les garde-robes des plus grandes stars américaines. Les Laboubou, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, cette petite peluche suscite depuis plusieurs mois une fièvre acheteuse chez les consommateurs du monde entier. On l'accroche à son sac à main, un accessoire adopté par les chanteuses Rihanna ou encore Lady Gaga. Il n'en fallait pas plus pour affoler les réseaux sociaux, à la grande surprise de son fabricant chinois. La correspondance à Pékin de Sébastien Berriot.
La peluche est plutôt laide, sorte de croisement entre un lapin et un monstre aux dents pointues. Mais le succès est incroyable. En 2 ans, le Laboubou est devenu le jouet considéré comme indispensable pour une partie de la jeunesse mondiale. Des ventes records aux États-Unis et en Europe où on assiste à des scènes d'émeutes devant certains magasins. Résultat de cette frénésie, la maison mère chinoise Pop Mart, basée à Pékin, enregistre des bénéfices qui font pâlir d'envie les grands fabricants de jouets. Plus de 650 millions de dollars sur les 6 premiers mois de l'année, une progression de 385% en 12 mois. Grâce à une stratégie de rupture de stock savamment orchestrée, Pop Mart vise le milliard de dollars de bénéfices d'ici à la fin de l'année. Gros succès financier, mais aussi véritable outil d'influence qui permet aux Chinois d'exporter leur culture et diffuser une image positive et branchée de la Chine.
Sébastien Berriot. C'est peut-être sa dernière rentrée en tant que Premier ministre. François Bayrou se prépare à un automne à haut risque. Le Premier ministre tiendra demain une conférence de presse à 16h pour tenter de défendre son projet de budget et les économies de 44 milliards d'euros à réaliser. Un projet qui pourrait lui coûter son poste à Matignon, le Rassemblement national et la gauche brandissant des menaces de censure. Bonjour Julie Paco.
Bonjour à tous.
Le chef du gouvernement prépare donc sa riposte et multiplie les prises de parole dans la presse aujourd'hui. Il appelle les oppositions à la responsabilité. responsabilité.
À la rentrée, il y aura forcément une confrontation entre le réel et les idéologies, veut croire le Premier ministre. Et si les mesures peuvent toutes être discutées, le montant de 44 milliards d'euros reste intangible, insiste François Bayrou, appelant à la prise de conscience face au piège infernal dans lequel nous sommes, celui du surendettement. Voilà pourquoi les marges de manœuvre des oppositions restent infimes lors des concertations qui doivent se tenir durant les deux prochaines semaines entre groupes parlementaires et gouvernement. Les formations de gauche, d'abord dubitatives, ont donc progressivement rallié l'appel « Bloquons tout » le 10 septembre, lancé sur les réseaux sociaux, dans les pas donc de Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la grève générale. « Le blocage du pays ne peut pas être la réponse à la crise budgétaire », rétorque le Premier ministre dans Le Parisien, car le pays est devant de grands risques, dramatise-t-il encore une nouvelle fois, convaincu qu'une prise de conscience s'opérera chez les Français.
Et ce mouvement « Bloquons tout » est également rejoint par le Parti Socialiste, Julie.
Oui, le Parti Socialiste, seul allié avec lequel le chef du gouvernement pouvait espérer nouer un accord de non-censure, mais les espoirs ont été douchés dès mi-juillet. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, assurant que la seule perspective possible était la censure. Et dans son propre camp, eh bien, le Premier ministre peine toujours à convaincre, y compris au sein même du MoDem. Le député Richard Ramos l'appelle ce matin sur France Info à revoir sa copie.
Je pense qu'il doit abandonner notamment ces deux jours que l'on veut piquer aux travailleurs. Je sais que ces 4 milliards, il faut les prendre ailleurs. Il faut les prendre aux très riches et à ceux qui ne se lèvent pas le matin pour aller travailler alors qu'ils pourraient le faire. Je suis pourtant MoDem, mais je ne suis pas pour qu'on pique ces deux jours aux travailleurs. Je pense que là-dessus, François Bayrou doit revoir la copie.
Et si François Bayrou avait évoqué mi-juillet une contribution des plus fortunés à définir avec les parlementaires, eh bien le sujet n'est pas tranché, confesse-t-il aujourd'hui, même si contribution il y aura, assure-t-il. Et c'est peut-être là que réside l'étroite voie de passage pour échapper à la censure.
Les explications de Julie Pacaud. La ministre de la Culture, Rachida Dati, confirme qu'elle ira bien au bout et maintient sa candidature à la législative partielle de Paris. Elle l'annonce dans la tribune dimanche, faisant fi de l'investiture de Michel Barnier par les Républicains et des poursuites judiciaires qui pèsent sur elle. La maire du 7e arrondissement est notamment poursuivie pour corruption et trafic d'influence. De nouveaux moyens en Guadeloupe pour lutter contre la délinquance et le narcotrafic, annonce de Bruno Retailleau, actuellement en déplacement sur l'archipel. 13 enquêteurs supplémentaires viendront grossir les rangs de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, a précisé le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau qui attendait une réponse très ferme de la justice après le refus d'un gérant de parc de loisirs de laisser entrer un groupe de 150 jeunes israéliens. Hier, l'homme de 52 ans a été mis en examen par le parquet de Perpignan pour discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie ou la nationalité. Les précisions de Mathilde Lemaire.
Le gérant de 52 ans est ressorti libre hier en fin d'après-midi. Il est mis en examen mais n'a pas été placé sous contrôle judiciaire, contrairement à ce qu'avait demandé le parquet de Perpignan. Le responsable de ce parc tir au vol, inconnu de la justice, a nié fermement en garde à vue et devant le juge avoir refusé pour des raisons idéologiques l'accès à ces 150 jeunes de 8 à 16 ans venant d'Israël. Il évoque, lui, des raisons de sécurité. L'an dernier, le parc avait reçu un groupe d'Israéliens et à cause de la barrière de la langue, la transmission des consignes de sécurité avait été compliquée. Désormais, un juge d'instruction est donc nommé, une information judiciaire ouverte pour poursuivre les investigations, éclaircir les faits. D'ores et déjà, des associations de représentants de la communauté juive ont annoncé leur souhait de se constituer partie civile.
Un nouveau foyer de dermatose identifié dans l'Ain, annonce la préfecture. C'est le premier cas de la maladie dans le département depuis la détection du premier foyer dans le département limitrophe de Savoie le 29 juin dernier. Des mesures ont été annoncées par la préfète de l'Ain pour éviter la propagation de la maladie. Parmi elles, l'abattage des bêtes contaminées ainsi qu'un accompagnement humain et psychologique pour les éleveurs touchés. Enfin, à Saint-Cloud, près de Paris, c'est un concert sous haute surveillance qui attend les festivaliers de rock en scène. Le trio nord-irlandais Kneecap sur scène ce soir vers 18h30. L'un des membres est poursuivi par la justice britannique pour avoir exhibé un drapeau du Hezbollah lors d'un concert en 2024. L'homme est toujours dans l'attente d'une décision de justice. Les organisateurs de rock en scène ont décidé de maintenir la venue du groupe, brandissant leur liberté de programmation. Kneecap s'est déjà produit cet été à deux reprises en France lors de festival sans qu'aucun incident ne soit relevé. Avant de refermer ce journal, un mot de la météo pour cet après-midi et toujours de belles éclaircies et du soleil sur une large partie du pays. Les températures, elles, se réchauffent. Il fera 22 degrés à Lille, 25 à Brest, 26 à Lyon et jusqu'à 30 degrés à Toulouse. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Brice Garcia à la technique, Olivier Arnay.